Paysans autrement, l'agriculture d'aujourd'hui et de demain sur Radio Territoria.
Bonjour et bienvenue pour Paysans autrement, nouveau numéro sur Radio Territoria. Aujourd'hui, coup de projecteur sur ces agriculteurs, ces producteurs qui choisissent de faire ami-ami avec la grande distribution, de passer des contrats avec elle pour essayer de mieux vivre, pour essayer de s'en sortir. Sont-ils mieux rémunérés? Produisent-ils du lait ou de la viande de meilleure qualité? Pactiser avec la grande distribution, est-ce pactiser avec le grand méchant loup qui va toujours essayer de tirer les prix vers le bas? Ce sont des questions que l'on se pose. Et nous, les consommateurs, sommes-nous vraiment gagnants dans tout ça? Pour toutes ces réponses, c'est maintenant et c'est dans Paysans autrement.
On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs.
Les contrats de mariage entre les agriculteurs et la grande distribution profitent à qui? On va le savoir tout de suite avec nos invités. En studio avec nous, Michel Biérot, directeur exécutif achat chez Lidl. Bonjour Michel.
Bonjour Christophe.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'être venu nous voir sur Radio Territoria. Hubert Simon est à distance, éleveur de porc pour le groupement Porc Opale. Benjamin Denequin, éleveur de porc pour le groupement Ch'tiporc et gérant de l'entreprise Denequin. Bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas à tous d'être avec nous dans Paysans autrement. Michel Biérot, patron de Lidl, alsacien, grand-parent agriculteur. Alors, je ne sais pas si ce passif a joué, mais en tout cas, dans le changement d'image, dans le lifting que vous avez opéré chez Lidl, il y a désormais un incontournable, l'affichage. L'affichage dans les rayons, sur les briques de lait, les barquettes de côtelettes et autres saucisses, de photos bien réelles d'agriculteurs, de producteurs, d'éleveurs de bœuf, de porc, qui ont accepté de travailler avec vous, de vendre une partie de leurs produits chez vous, changeant du même coup donc l'image de Lidl, cette image hard discount au départ de produits pas chers, pas toujours, c'est ce que l'on disait en tout cas, de très bonne qualité. Terminez tout ça, balayez tout ça avant de rentrer dans le détail. Conséquence réelle de ce changement de cap dans les rayons auprès des consommateurs. Les consommateurs sont-ils vraiment plus séduits par cet affichage qui fait appel au terroir, aux vraies valeurs de notre pays, à l'éleveur qui est sur l'emballage? Est-ce que ça change quelque chose? Ah voilà, ça c'est toute la question. Eh bien Thibaut Mauvignier est allé poser justement la question aux clients de Lidl. On écoute.
J'ai acheté tout ce qui est viande blanche, poulet. Puisqu'on voit déjà dans les prospectus, les éleveurs que nous voyons nous rassurent.
Au moins, on sait l'origine du produit, ça c'est bien déjà. Je suis déjà allé chez le boucher une fois, mais je ne vois pas de différence. Le fait de montrer la personne qui fait le produit, c'est promouvoir peut-être l'élevage en France. Je pense que Lidl sont beaucoup plus en partenariat avec beaucoup d'éleveurs français. Je trouve que c'est bien, voilà.
Bon, Michel Biérot, je vais vous donner la parole dans un instant. Question à nos éleveurs de porc, pour commencer, Hubert et Benjamin. Ça vous inspire quoi, ce que l'on vient d'entendre, qui a l'air plutôt rassurant? C'est-à-dire que les consommateurs ont l'air d'adhérer à cette idée que vous soyez affiché sur les barquettes des produits Lidl.
Oui, bien sûr, parce que je crois que c'est à moi de parler.
Oui.
Oui, bien sûr. Voilà, et on va les rencontrer régulièrement dans les magasins. Et c'est vrai qu'on a des retours très très positifs. Et c'est vrai que ça fonctionne. Et on fait ça depuis 8 ans maintenant, je pense. Et voilà, et je dirais même qu'ils sont fidèles. Donc, je crois que dans les sondages, il apparaît clairement que dans les actes d'achat, cette sensibilité de la proximité du paysan ressort assez facilement, oui.
Benjamin, ça vous fait quoi d'être superstar dans les rayons boucherie-charcuterie de Lidl?
Superstar, c'est peut-être un petit peu... Le mot est peut-être un petit peu fort, mais...
Ouais. Utilisé à dessein, évidemment.
Ouais. Non, mais je veux dire, ça fait énormément plaisir parce que au jour d'aujourd'hui, ça permet aussi de montrer aux consommateurs la proximité qu'on a avec l'enseigne. Et ça permet aussi de montrer qu'on n'a pas peur de s'afficher sur nos produits. Parce que en s'affichant sur nos produits, c'est aussi un gage de qualité. On va pas mettre notre nom, notre tête sur un produit auquel on n'a pas confiance. Donc quelque part, c'est aussi, comme Hubert disait tout à l'heure, ça, on gagne la confiance du consommateur, mais pour nous, c'est aussi une fierté d'être affiché dans les magasins pour la qualité de ces produits, quoi.
Ouais. On va continuer de parler de tout ça, évidemment. Michel Biérot, à quoi ressemble, pour rentrer un peu dans le dur, pour qu'on comprenne bien, à quoi ressemblent les contrats que vous avez passés avec les éleveurs? Tout d'abord, ça concerne beaucoup d'éleveurs en France aujourd'hui, de producteurs?
Alors, si je peux me permettre, juste revenir à la genèse de pourquoi ces contrats tripartites avec les éleveurs, et notamment Hubert et Benjamin. En 2014, ces agriculteurs et plein d'autres ont manifesté leur colère. Et pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur métier depuis des années. Et donc ils sont descendus dans la rue, et notamment sur les parkings de nos magasins, mais d'autres magasins aussi, et ils ont tout cassé. Et ça nous a coûté des millions d'euros pour réparer cette casse. Et là, je me suis dit « mais on est quand même très bêtes ». On dépense des millions d'euros chaque année pour réparer les dégâts de la colère des agriculteurs. Donc est-ce qu'on peut pas investir ou en tout cas faire autre chose de cet argent? Et donc on a eu cette idée folle d'aller au salon de l'agriculture parce qu'on s'est dit c'est le bon endroit pour rencontrer
le monde agricole. Vous avez un stand énorme chaque année. Enfin, pas cette année puisque la crise sanitaire a fait qu'il n'y a pas eu de salon. Mais
exactement. On a un stand de 300-350 mètres carrés. Et on... Alors bien sûr, c'est pour faire la com, hein, je m'en suis jamais caché, mais c'était au départ pour rencontrer, aller à la rencontre du monde agricole. Et là, les industriels, très vite, nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas à vous de parler aux agriculteurs. » Donc déjà, vous vous dites « Tiens, c'est bizarre, pourquoi les industriels ne veulent pas qu'on parle aux paysans ?» Et en fait, c'est comme ça qu'on a rencontré ces gens qui sont aujourd'hui autour de la table, Benjamin, Hubert, en disant « Mais comment on peut travailler ensemble intelligemment et pas qu'on se tape dessus ?» Ça n'a jamais été constructif. Et tout simplement, ils m'ont dit, nous, pour vivre aujourd'hui, le coût de production d'un kilo de porc, c'est ça. Et c'est pas 1,08€. C'est 1,40, c'est 1,45. Et donc, tout simplement, on s'est engagé à payer ce prix-là. Donc, une fois que le distributeur et l'éleveur qui est là a trouvé l'accord du prix, il faut, bien évidemment, un industriel. Parce que ni moi, ni l'éleveur...
Il faut
abattre et il faut transformer. Et mettre en barquette. Et ça, je ne sais pas faire, pas plus que l'éleveur. Et donc, il faut trouver les industriels. Et force a été de constater à l'époque que les industriels n'étaient pas très 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 chauds à y aller. Pourquoi? Parce qu'un industriel qui joue la transparence et signe de ce fait un contrat tripartite devient prestataire de service. Et il n'y a pas beaucoup d'industriels qui veulent être prestataires de service. Donc en l'occurrence avec Benjamin dans le Nord, notre contrat on l'a fait avec un industriel belge. Parce qu'aucun Français ne voulait à cette époque-là...
Ah oui, aucun Français n'a voulu participer à ces contrats.
Alors depuis, ça a changé. La preuve, avec Hubert, on est, on peut le dire, on est avec Bigard. Donc voilà, Bigard commence, on va dire, après toutes ces années, à changer un peu sa réflexion.
Oui, parce que est-ce que Bigard a une bonne image? On voit beaucoup de publicité à la télé, mais c'est vrai que...
Elle s'améliore. Ils font des efforts. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent des efforts parce que, d'une, le consommateur veut manger français. Deux, le consommateur... est très attaché au monde agricole. On a tous un grand-père et une grand-mère agricultrice.
Oui, et puis ça s'est même accéléré avec la crise que l'on vient de vivre, avec cette crise sanitaire.
Ils ont,
on veut manger des produits qui sont français, fabriqués
terroir,
près de chez nous, du terroir, etc. Oui.
Et donc, avec tout ça, il faut qu'on sauvegarde l'agriculture française. Parce que si demain, aujourd'hui, il faut savoir que tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Ça, c'est la réalité.
C'est vrai.
Et donc si on continue comme ça, les 450 000 agriculteurs, ils vont bientôt disparaître. Et donc on va tous manger des poulets brésiliens, du bœuf polonais et des porcs danois. Donc il faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Alors pour répondre à votre question, et elle est importante, quelle est la part aujourd'hui de la viande tripartite chez Lidl? Elle est très faible, elle est de 20%. Et c'est trop peu à mes yeux. Et il faut développer cela. Mais pour ça... il me faut des industriels qui sont d'accord de rentrer dans la démarche à 100% et pas que à 20%.
Ouais.
Et pour ça, je demande...
Donc des industriels qui sont là pour découper, pour tuer, pour découper, pour préparer, mettre en barquette, etc.
Exact. Et transformer. Et pour ça, je pense il nous faut l'aide de la loi, du législateur, pour faire bouger les lignes. Parce que Egalim a été mis en place, vous en avez entendu parler, la loi qui a découlé des états généraux de l'alimentation, qui est sortie en 2019.
2019, oui.
C'est ça, janvier 2019. Ben, elle n'a rien apporté. Mm. Les éleveurs laitiers touchent moins aujourd'hui qu'il y a un an. Mm. Donc c'est une coquille vide. Je le disais il y a deux ans, je le redis aujourd'hui. Ça n'a rien apporté au monde agricole.
Mais qu'est-ce que vous demandez, Michel Biérot, au législateur, concrètement?
Il faut modifier, pour moi, la loi de modernisation de l'économie. Il faut la dépoussiérer. Elle date de 2008 et elle régit 80% des produits alimentaires en France. Et elle demande, à partir d'un tarif général d'un industriel qui n'a pas à le justifier, qui sort du chapeau de Perlimpinpin, et de là, il faut négocier des descentes tarifaires. D'où l'apparition de centrales internationales de négociation de services, en Suisse, de certaines enseignes, et plus de produits. Vous croyez sincèrement que l'acheteur, si on peut appeler ça un acheteur, qui est installé en Suisse et qui négocie des services pour descendre le tarif général de l'industriel, vous croyez qu'il en a quelque chose à faire de l'éleveur qui élève ses porcs tous les jours ? Et de son coût de production. Ça n'existe pas. Donc Egalim ne peut pas coexister et totalement antinomique avec la loi LME, la loi de modernisation de l'économie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le résultat est que ça ne fonctionne pas. Donc il faut changer la loi. Il y a des avancées. Monsieur Besson-Moreau, député de l'Aude, a fait une proposition de loi. Et j'espère qu'elle passera parce qu'elle va dans le bon sens pour sauvegarder le monde agricole.
— Pour revenir sur le prix, ces contrats, vous les avez décidés pour permettre, vous l'avez dit, hein, un revenu digne et garanti aux éleveurs. Moi, j'ai envie de vous dire, vu de votre point de vue, d'abord, est-ce vraiment le cas ? Est-ce que ça suffit réellement, le prix que vous payez ?
— Ah ben ça, je laisserai les éleveurs...
— Déjà, est-ce que vous estimez que...
Oh bah moi, c'est très simple.
On va leur donner la parole, évidemment.
C'est messieurs pour le dire.
Oui, bien sûr.
Je négocie pas avec un éleveur. On n'est pas à discutailler avec un éleveur comme je discutaille ou je négocie dur avec un Coca-Cola ou avec un autre industriel multinational. L'éleveur, il m'a jamais menti. Alors bien évidemment, si Hubert me dit demain il lui faut que 5 euros du kilo de porc ou Benjamin, bien évidemment, on va pas se mettre d'accord. Mais ça n'est jamais arrivé. Au contraire, j'ai envie de dire, et je vais juste vous citer une anecdote qui, dans la vie d'un acheteur, c'est quand même c'est du jamais vu. On a signé un contrat avec Hubert. On rediscute donc tous les 6 mois, tous les ans. Ça, c'est eux qui décident de la même façon, en fonction de l'évolution du cours de la matière. On trouve un accord en septembre. Trois mois après, il m'appelle pour me dire « Michel, il faut baisser le prix ».
Il faut baisser le prix.
Il faut baisser le prix parce que le cours du porc a tellement chuté, je pense qu'on est un peu trop haut. Enfin, vous vous rendez compte, pour un acheteur. Donc ça montre bien, cette anecdote, que c'est avant tout un contrat de confiance, une relation, un vrai partenaire. Je veux dire, je signe pas un contrat tripartite et après, je leur parle plus. Hubert, Benjamin, ils ont mon portable. Alors je connais pas tous les éleveurs du groupement Opal ou du groupement Ch'ti, mais de plus en plus, j'en connais un bon nombre quand même. Et donc c'est important, cette relation de confiance. Et c'est eux qui définissent le prix.
— Et vous acceptez ?—
Et moi, je l'accepte. —
Quoi qu'il arrive.
— Attention.
Enfin, quoi qu'il arrive. —
Derrière, ça, c'est un premier contrat. C'est ce qu'on appelle le contrat tripartite. Moi, je signe. L'industriel s'engage à payer ce que l'éleveur demande. Et après, moi, j'ai un deuxième contrat entre Lidl et l'industriel, où nous deux, on doit se partager la valeur entre le prix qu'on a accepté de payer à l'éleveur et le prix de vente qu'on va vendre au consommateur.
Et vous réduisez un peu vos marges aussi ?
Bien
vous
évidemment.
Rabotez un peu ?
Bien évidemment, je rabote un peu. Mais à côté de ce que je gagne, c'est rien du tout. On parle de quelques centimes de rabotage, si on peut parler ainsi, de marge. Mais derrière, premièrement, ils sont plus sur mes supermarchés pour les casser. Mais comme vient de le dire Hubert, ils sont dans mes supermarchés pour promouvoir leurs produits. Deuxièmement... On a vendu sur le port du Nord, par exemple, quand on l'a installé, 15% de plus parce qu'il y avait la tête des éleveurs. Alors même si certains me dénoncent en disant... —
C'est très vendeur. On l'a entendu avec
bien
les... —
Bien évidemment. Ouais. Même si certains me dénoncent en disant « Vous faites de la com' sur le dos des éleveurs », mais bien évidemment, il faut faire de la com'. On fait des belles choses. On rémunère correctement les éleveurs. Il faut que les clients le sachent pour qu'ils achètent ces produits-là et que demain, les 20% dont je vous parlais se transforment en 30, en 40 et pourquoi pas un jour en 60.
Ouais. Tiens, Hubert Simon, justement, le kilo de porc aujourd'hui que vous vendez à Lidl, vous le vendez à combien ?
Bon, je vais confirmer ce qu'a dit Michel. Donc à 1,44, voilà, plus les plus-values qu'on a techniques et de label rouge. Alors là, je me rappelle de la première négociation qu'on a eue avec Michel. Donc on était deux éleveurs. Et puis voilà, alors on croyait qu'on rentrait dans un processus assez compliqué. Et puis, Michel, comme on a appris par la suite à ses habitudes, nous dit « Vous voulez combien ?» Et là, on se regarde et je me jette, très rapidement d'ailleurs, 1,44. Réponse de Michel, sympa.
Et là, vous avez été surpris. Moi, j'aurais été à votre place, je me serais dit tout de suite, j'aurais dû demander 1,50.
Non, parce que si on est déconnecté du marché, Michel ne vendra plus. S'il ne vend plus, nos produits restent chez nous.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a cette notion d'équilibre qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que Michel a rapporté une anecdote où j'ai demandé la baisse, mais je peux aussi donner une anecdote où Guillaume Rex, dans son négociateur, m'appelle, il me dit « Bon, là, Hubert, là, le prix du cochon s'est envolé, nous, on n'est qu'à 1,44, il faut monter. » Mais j'ai dû refuser. Bon, j'ai accepté dans un deuxième temps, mais...
Ah, quand même, Il s'est laissé séduire, finalement.
Non, mais c'est le monde à l'envers, un petit peu, et ça, c'est vraiment sympa, effectivement. Mm. Après, tant que j'ai la parole, je voudrais juste contredire un petit peu Michel, alors une fois n'est pas coutume. Moi, je crois, Michel, qu'on peut faire toutes les lois du monde. Si les gens ne veulent pas y aller, ne veulent pas faire, ne sont pas sincères, comme on a été nous, entre nous, ça ne changera rien. Je crois que la loi Egalim existe, elle est sûrement pas bien faite, mais je crois qu'on n'a pas attendu la loi Egalim pour travailler ensemble. On n'a pas attendu la loi Egalim pour mettre des choses en place, pour trouver un prix, pour fédérer. Et ça, je crois que c'est bien légiférer. Il faut probablement légiférer parce que tout le monde n'est pas aussi
pas au même niveau.
Proactif qu'on l'a été. Mais moi, je crois qu'on fera pas tout par la loi. Il y a toujours des gens pour la contourner. Vous savez très bien.
Benjamin Denequin, qui est avec nous, vous vendez combien le kilo, vous, même prix, 1,44 ?
Les prix cadrans en français, plus la plus-value technique, plus la plus-value Ch'tiport.
Ah oui, Ch'tiport, donc il faut expliquer ce que c'est Ch'tiport en deux mots, rapidement.
Nous, le Ch'tiport, c'est une marque qu'on a créée dans notre groupement.
Oui.
Donc on a une marque qui est propre à Lidl, qui est commercialisée que chez Lidl et qui s'appelle le Ch'tiport des Flandres. Et donc c'est une marque qu'on a créée lorsqu'on a signé notre première tripartite avec Lidl. Mmh. Et aujourd'hui elle est commercialisée dans les trois centrales des Hauts-de-France, ce qui représente à peu près, je pense Michel, autour de 200 magasins, 200-210 magasins livrés par le Ch'tiport.
Et donc, ça fait combien de kilos pour vous, là, concrètement ? Vous vendez combien de kilos de porc ?
Nous, la différence, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours ce problème, ce problème entre guillemets, d'équilibre carcasse sur un cochon. On ne commercialise pas 100% de la carcasse chez Lidl, puisqu'il y a des morceaux qui ne sont pas intéressants en France, dans n'importe quelle enseigne. Il y a même des morceaux où on n'est pas encore d'accord. Donc aujourd'hui, sur les morceaux qui sont vendus chez Lidl, on a le prix du cadran, une plus-value technique et la plus-value Ch'tiport sur le volume vendu chez Lidl.
Et ça veut dire combien un chiffre
en moyenne ? 2500, non ? On doit être 2500-2600 cochons par semaine ?
Aujourd'hui, on fait même mieux que ça. Sur les derniers chiffres, on est entre 2800 et 3000 porcs commercialisés, enfin besoin par semaine chez Lidl, entre 2800 et 3000 porcs, ouais.
On a encore augmenté, donc on augmente encore les volumes.
Alors le volume augmente, mais le prix au kilo, on ne sait toujours pas.
C'est une plus-value, si vous voulez, une fois de plus, c'est les éleveurs qui décident. Mm. Dans le cas de Opale, ils ont décidé de se détacher de ce fameux cadran. Vous avez déjà entendu parler du cadran de Plérin. Donc ils se sont détachés et on a un prix qu'ils définissent. Au contraire, chez les Ch'tis, eux, ils ont voulu rester sur le cadran et ils nous demandent une plus-value par kilo de porc.
D'accord.
Qu'on achète.
Et donc c'est un prix qui évolue en permanence.
C'est ça. Donc en fait, on est, je crois, à 40 centimes de plus-value. Et donc, si vous voulez, si le cadran est à 1,10, ça sera 1,50. S'il est à 1, ça sera 1,40, etc., etc. Donc effectivement, ça, c'est leur décision.
Benjamin, tiens, justement, est-ce que vous vivez mieux aujourd'hui, après cet accord tripartite donc avec Lidl, est-ce que vous pouvez dire que vous vivez mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Réellement.
Je vis plus sereinement.
Plus sereinement.
Je vis plus sereinement. Plus sereinement.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur mon exploitation, quand je vais charger des cochons pour partir à l'abattoir, je sais qu'il y a une partie de ces cochons qui vont se retrouver chez Lidl. Et quand ma femme ou moi-même, on va faire les courses, on va chez Lidl, qu'on retrouve notre viande, qu'on discute avec les consommateurs, quand on va à l'école déposer notre fils, et puis que les parents, ils nous reconnaissent, qu'ils disent, bah, c'est vous qu'on a sur des barquettes de viande chez Lidl, bah oui, c'est nous qui vendions là-bas, etc. Déjà, ça nous met en avant, c'est une fierté, on le vit plus sereinement.
Voyez que ça fait du bien d'être une superstar quand même, hein. Vous êtes en train de décrire quelque chose qui va.
Hein, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ce volume de viande qui rentre chez Lidl, il est payé au juste prix. Mmh. On n'est pas volé, on n'est pas assassiné, on n'est pas égorgé par Lidl. Michel Biro, il peut dormir tranquille. Sur tous les volumes Stipor qui rentrent dans ses magasins, il sait qu'il a payé le producteur, qu'il a payé le groupement au juste prix. Mmh. Et ça, c'est quand même important, c'est que, et c'est comme on disait tout à l'heure, de pouvoir avoir le numéro de portable de Monsieur Biro, de pouvoir l'appeler en disant « là, au jour d'aujourd'hui, ça devient compliqué parce que les matières premières elles ont augmenté ou parce que le cours du porc y chute ou, ou dans le cas inverse, la matière première elle a baissé, le cours du porc il a monté. » Enfin, au début, moi-même, j'avais du mal à y croire.
Non, mais je vous confirme une chose entre nous, c'est juste entre nous, hein, personne ne nous écoute. C'est plus facile de joindre Michel Biro au téléphone que Michel-Édouard Leclerc. Ça, là-dessus, on est d'accord.
Là-dessus, on n'a pas le même niveau.
C'est vous qui le dites. Ben non. Voilà. Bon. Non, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même des agriculteurs qui disent on vit mieux parce qu'il y a eu ces contrats. Bon, cela étant, ce système qui a été mis en place tripartite entre vous, ben ne plaît pas forcément à tout le monde. Et on a appelé notamment la FNSEA. Et je vous propose d'écouter Patrick Benesi, qui est secrétaire général adjoint de la FNSEA et qui a un avis bien arrêté sur ce système.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de publicité qui est faite sur le fait que la grande distribution joue le jeu avec les agriculteurs et les éleveurs français. Il faut se méfier, il y a aussi beaucoup de publicité mensongère, puisque si la grande distribution veut aider les producteurs français, il faut qu'elle respecte les coûts de production qui émanent des agriculteurs. Et ça, c'est pas toujours le cas. Ben, aujourd'hui, un producteur laitier qui va être payé 350 euros la tonne de lait, alors que son coût de production est à 400, va perdre 50 euros tonne. Ça peut faire le revenu ou une grande partie du revenu de cet agriculteur. C'est facile de dire, venez chez nous, on paye bien les agriculteurs. C'est pas encore le cas, en tout cas.
Une réaction, Michel Biro?
Ouais, alors tout n'est pas faux et c'est même très juste ce qu'il dit. Il a tout à fait raison. Moi, je me vante pas de dire que 100% de mes produits sont sous tripartite et rémunèrent correctement les éleveurs. Je l'ai dit, il y a que 20% aujourd'hui dans le lait, un peu plus, on est à 25. Même si avec un Sodial, avec un Lactalis, faut savoir que ces gens-là ne veulent pas faire de contrat tripartite. Mmh. Et donc aujourd'hui, je suis obligé de signer des.
Et ce sont quand même des leaders.
C'est les deux. Voilà. C'est les deux qui font le lait en France, hein, ouais, ouais. Les fromages et les yaourts et bref tous les produits laitiers. Donc je suis obligé de leur faire signer des communiqués de presse où ils démontrent, où ils prouvent que je paye à hauteur de 600 millions de litres de lait chaque année, 370 du 1000 prix de base. Donc c'est pas 350 comme le dit M. Benesit, mais bon, il parlait peut-être certainement pas de Lidl. Mais donc bien évidemment, oui, ce n'est pas parfait. Et je ne crie pas haut et fort, il faut venir chez moi parce que je paye tous les agriculteurs correctement. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est pour ça que je pense, alors même si Hubert n'est pas d'accord, mais il faut légiférer parce que les industriels ne veulent pas rentrer dans cette démarche.
Ils veulent pas jouer le jeu.
Mais parce qu'ils sont, ils doivent montrer de la transparence. Quand on est ensemble à trois autour de la table, eh ben on est transparents tous les trois. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. C'est un contrat de confiance et de transparence. Mmh. Donc bien sûr qu'il a raison, mais il y a pas que Lidl, premièrement. Derrière, Egalim n'a pas apporté grand-chose. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contraintes et il n'y a pas de sanctions. J'ai essayé de faire avancer les choses. Aujourd'hui, quand vous avez des multinationales qui font des promotions à 55-60 centimes le litre de lait, à 1,48€ le kilo de porc, on vient de vous donner les prix qu'on paye. Enfin, je suis désolé, ce n'est pas acceptable. Et pourquoi on continue à laisser faire ces choses-là ? Donc si on légifère, légiférons jusqu'au bout. Interdisons les promos sur le lait, interdisons les promos sur le porc, sauf s'il y a une surproduction et auquel cas les distributeurs, on sait très rapidement répondre pour écouler des
Vous en faites des promos dans votre magasin ?
Mais jamais à 1,48€ le kilo de porc et jamais à 0,55€ le
kilo de lait. Non, parce que je vois des grandes barquettes avec 12 côtelettes, par exemple, le samedi matin.
Mais même avec les ch'tis porcs. Mais on fait ces promos-là même avec les ch'tis porcs. Mais toujours en respectant le prix, le coût de production de l'éleveur. vous pouvez leur demander. Je pense qu'ils s'en fichent de savoir à combien je vends. Alors, bien sûr, en 48, c'est indécent, mais je n'ai jamais vendu en dessous de 2,99 un kilo de porc. Mmh. Mais à partir du moment que le prix, leur coût de production est payé, à la limite, que moi, je fasse zéro de marge en faisant une promo ou que j'en fasse 20, ça les, ils s'en fichent.
Hubert, je vous redonne la parole. Vous avez entendu donc le responsable de la FNSEA. On sent que ce système dérange un peu le premier syndicat français, je me trompe ?
Oui, oui, non, mais clairement, de toute façon, dès qu'on veut changer les choses, on dérange. Et on nous le fait savoir assez clairement. Après, on ne peut pas garder un système mis en place par nos parents il y a 40 ans. Enfin, je dis qu'à un moment donné, il faut aussi évoluer.
Ce que vous dites, vous, par exemple, c'est que la FNSEA et l'Actalis, c'est copain comme cochon, si je puis dire. Non ? Un peu.
Bah ça, on les dérange. Alors, copain comme cochon, je ne suis pas affûté pour vous le dire comme ça.
Oui.
Mais on dérange. Alors, une des particularités de notre démarche avec Lidl et d'autres, parce qu'on ne travaille pas qu'avec Michel, c'est qu'à un moment donné, le système ne nous convenait plus, il faut le dire. Et j'ai envie de dire paysan autrement, voilà.
Et mais ça tombe bien parce que c'est le nom de notre émission. Hein, donc,
oui, je n'ai pas fait exprès.
Oui, bien sûr, bien sûr, bravo. Ouais.
Non, mais je veux dire, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on discute. Voilà. Alors, dans nos groupements, voilà, qui jouent le jeu complètement, je le dis aussi, nos coopératives, nos abatteurs, voilà, on a commencé à parler avec eux, on a parlé aux salaisonniers, aux charcutiers, aux transformateurs. Mmh. Et puis, on est arrivé un jour, et je me rappelle, parce que ça nous marque quand même, dans le bureau de Michel Biérot, voilà, avec quand t'es un collègue, et puis accompagné de ce copain, voilà, il faut le dire. Et bon, ça marque de se retrouver là, on se dit, tiens, on a quand même bougé les choses, on a avancé. On a, voilà, après, au moins, on a essayé. Mmh. Et bizarrement, et ça marche pour beaucoup de choses comme ça, quand on discute, on voit bien qu'on va être vite en phase.
Mmh. J'ai deux questions à vous poser, et je les pose aussi d'ailleurs à Michel, pour être clair, parce que moi, il y a quand même deux, trois petites choses encore qui me taraudent, si je puis dire. D'abord, premièrement, par rapport au prix. Quand on demande aux charcutiers traiteurs, aux artisans charcutiers traiteurs, combien ils achètent le kilo de porc, on est entre 3 euros et 3,50 euros. Alors certes, le prix à la vente est plus élevé, mais on se dit c'est aussi lié, ce prix quand même, à une qualité, à une véritable qualité. Les barquettes sur lesquelles il y a nos amis Hubert et Benjamin, il n'y a pas marqué Label Rouge, par exemple.
Ah si, chez Hubert, si c'est du Label Rouge, oui, bien sûr. Non mais après, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On ne compare pas, je ne sais pas, des poires avec
non,
des
choux.
Non,
parce que si le type qui a 1,48€ le kilo, par exemple, vit super bien, celui à qui on paie 3€ ou 3,50€, alors lui, c'est le roi du pétrole.
Peut-être,
demain,
mais c'est peut-être tout
porc.
Simplement un
demain,
éleveur.
Demain, je suis moi-même éleveur de
ouais,
porc.
Oui, non, mais c'est peut-être un éleveur très différent. Moi, je connais aussi des éleveurs dans le Périgord noir qui élèvent des cochons noirs du Périgord, qui sont en liberté toute la journée.
Le Bigorre,
qui sont en liberté toute la journée. Bien, vous pouvez pas comparer ça avec des
non,
élevages.
Non, parce que là, on est bien d'accord, on est quand même sur de l'élevage. Allez. Entre intensif ou
bien
semi-industriel.
Bien sûr, mais bien évidemment, mais on s'en cache pas.
Mais qui est nourri quand même avec les céréales de nos amis.
Mais c'est quand même, mais bien sûr. Hein, mais c'est non seulement nourri avec leurs céréales. Alors eux deux, je pense qu'ils ont 100% de leur aliment provient de leur ferme ou quasiment. Dites-moi, messieurs, si je me trompe. Et en plus, les porcs opales, c'est du Label Rouge. Et on vient avec les ch'tis porcs de décrocher. Enfin, eux, ils viennent de décrocher le label. Il n'y avait pas de Label Rouge dans les Hauts-de-France. Les deux premières exploitations sont passées en Label Rouge il y a là quelques semaines. On a signé ensemble. J'étais chez eux sur leurs élevages il y a 3 semaines. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Bien évidemment, le boucher qui continue à acheter son cochon 3 euros, et c'est très bien. Et il y a une clientèle pour ça. Mais il y a une clientèle aussi...
Ça, vous ne le ferez jamais, vous.
Il ne faut jamais dire jamais. Non, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'un jour, on fera du cochon de Bigorre. Pourquoi pas. Et je suis déjà...
Une opération spéciale.
Ouais, je suis déjà en train de discuter avec des éleveurs. Mais je discute déjà avec des éleveurs, des copains éleveurs qui font ça. Donc pourquoi pas. Non, il ne faut jamais dire jamais. Mais après, il y a le porc conventionnel, il y a le porc Label Rouge, il y a le porc top de chez top. Et chaque kilo de porc a son prix. Donc il faut avoir ça en tête. Et je pense qu'il en faut pour tout le monde. Mais Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on paye aux éleveurs sur du porc label rouge ou sur du porc conventionnel ch'ti porc, c'est on couvre les coûts de production. Et c'est une fois de plus, moi, ce qui m'importe le
c'est
plus,
ça,
c'est que l'éleveur soit satisfait. Mmh. C'est tout ce qui m'importe. Mmh. Que Pierre, que Paul ne soient pas satisfaits ou soient pas contents de notre démarche, on peut pas plaire à tout le monde. Mmh. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, parce que moi aussi, je viens du monde agricole, c'est que les éleveurs soient satisfaits.
Et mais si oui, vous étiez dans la choucroute. Hein, dans c'est la pas choucroute, la même chose.
C'est vrai,
mais
vous êtes bien renseigné, Christophe.
Oui, tant qu'à faire. Hein, on essaie, bravo. On fait ce qu'on peut. Hein.
Bravo,
bon,
bravo.
Benjamin, donc vous êtes label rouge, vous
non.
Ah non, enfin, c'est si, pas Benjamin. Si, Benjamin.
Bientôt.
Bientôt, oui, bientôt, Benjamin.
Notre groupement, il vient de décrocher le titre label rouge, comme a dit Michel. Il est venu chez nous le 17 avril, exactement, visiter une de nos premières exploitations qu'on a passées en production label rouge. Par contre, pour revenir sur l'histoire du prix par rapport à un chevilleur pour faire de la boucherie ou pour un magasin comme Lidl, moi, si je prends mon exemple, toutes les semaines, je vais vendre entre 25 et 50 porcs à des chevilleurs. Mais attention, le travail n'est pas non plus le même pour l'éleveur. Mmh. Parce que le boucher, forcément, il va acheter sa viande plus chère. Parce que moi, comme ce matin, pour préparer 25 porcs, il m'a fallu une heure. Parce que pour le petit boucher, il faut un cochon qui fasse entre 100 kilos vifs et 105-110 kilos vifs, pas plus. Il faut que des femelles. Il faut pas qu'elles aient de défauts. Il faut pas qu'elles soient trop grasses, mais il faut qu'elles ont du jambon quand même. Donc, j'ai passé ce matin en revue entre 200 et 250 porcs pour en choisir 25. J'ai passé une heure pour 25 porcs.
Mmh. Donc ça coûte plus cher à la fin.
Énormément de temps.
Mmh.
Bah, ça me prend
le temps,
aussi
c'est
énormément
d'argent,
de temps à trier. J'ai un salarié qu'il faut que je rémunère, etc. Quand on fait un camion pour faire avec l'abattoir de Lidl, on fait un VPF classique, on prépare 180 porcs en une heure et demie, de 110 à 122 kilos, donc déjà la marge elle est beaucoup plus grande, que ce soit des mâles ou des femelles, des mâles ou des femelles, ça peu importe. Donc c'est ça aussi qui fait qu'entre préparer 180 porcs en une heure ou en préparer 25 en une heure et quart, à la fin, ça ne m'a pas coûté la même chose.
Moi, ce qui me marque juste dans ce qu'il dit, dans ce que vous dites, c'est que ce sont au final les mêmes porcs, si je comprends bien. Ils sont élevés dans les 2 mètres carrés, là, chacun, c'est ça ? C'est 2 mètres carrés par porc, je crois, c'est ça.
On n'est pas dans des élevages intensifs, industriels, on est dans des élevages traditionnels. Mon père avait 100 truies en 1986, quand il s'est installé, il avait 100 truies sur un site. Au jour d'aujourd'hui, sur le même site, on a 300 truies, mais on est associé à 3. La différence, c'est qu'on a 100 truies par tête, enfin d'associés, sur le même site, mais qu'on s'offre une qualité de vie. Aujourd'hui, si je veux partir une semaine en vacances avec mes enfants, avec ma femme, je peux, parce que j'ai mon père et mon frère qui vont assumer le boulot. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis agriculteur que j'ai pas le droit à une qualité de vie. Et en augmentant la taille de l'exploitation, mais tout en restant raisonnable par rapport au nombre de têtes d'animaux par UTH.
C'est quoi UTH ? Ça veut dire quoi UTH ?
Unité de travail.
Oui, d'accord.
Donc au jour d'aujourd'hui, on est 3 agriculteurs sur le même site avec 300 truies plutôt que d'avoir 3 sites différents avec 100 truies. L'élevage n'est pas plus grand qu'en 1986 à l'époque de mon père. Il est plus grand parce qu'on est 3. Mais
ouais, on a bien compris. Ouais. Hubert, juste une chose, Hubert, c'est la même chose chez vous ?
Oui, enfin, je crois qu'en France, il n'y a pas d'élevage industriel tel qu'on peut le voir ailleurs dans le monde. Ce sont des élevages familiaux. On est un élevage familial, comme je crois beaucoup en France. On est avec des collaborateurs et voilà, je pense qu'il y a des petites différences, mais n'opposons pas des petits élevages avec des grands élevages, il n'y a pas d'élevage industriel en France. Voilà,
c'est exactement le contraire qu'on avait cru comprendre, fut un temps quand les élevages en Bretagne étaient montrés du doigt, les élevages intensifs en Bretagne étaient montrés du doigt. Moi-même, je suis allé en voir un, je peux vous dire que chaque porc était dans une largeur de 1 mètre, dans des cages, c'était pas extraordinaire, ça faisait pas rêver, hein.
Non, mais je vous le concède, Monsieur Bordet. Maintenant, voilà, à un moment donné, moi, bon, je suis dans la ferme familiale depuis la 3e génération. Quand mon père s'est installé, il y avait 2 hectares et un élevage hors sol. Voilà. Donc, en fait, on n'avait pas de terre pour nourrir les animaux. On a demandé à nos parents de produire, parce que les gens avaient faim. Et c'est pas si vieux que ça, parce que.
C'est vrai.
Même si je suis pas le plus jeune de la bande. C'est pas si vieux que ça que les gens avaient faim, il faut pas l'oublier, c'est de là qu'on vient. Donc c'est vrai qu'on a produit de façon un petit peu attentif. C'est pas qu'on va le renier aujourd'hui, mais c'est qu'on a changé. Voilà, aujourd'hui, si je ramène ça à mon cas personnel, on nourrit les porcs sur paille. Voilà, ils sont dans des grandes cases. Mais c'est pas pour ça que je vais cracher sur mes petits copains. Ce serait faux. Il y a des normes qui sont respectées. On a des inspecteurs régulièrement dans nos élevages de la DTPP. Voilà, je veux dire. Je pense que ce mythe d'élevage industriel, il faut le chasser. Alors, il y a eu des abus, il y a eu des excès, il y a eu des choses dont on n'est pas forcément fier, et je vous le dis très clairement. Et c'est pour ça que, allez, je vais le redire, parce que ça m'amuse, paysan autrement, voilà, c'est-à-dire qu'on doit évoluer, on doit changer, on doit tenir compte des attentes de nos consommateurs. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, on a créé le Label Rouge, nous, l'association Opal, pour faire des porcs Label Rouge. Ça fait 8 ans, je pense, qu'on est en contrat avec Michel. Voilà. Et
Michel, justement, on va demander à Michel cette évolution, et parce que le bien-être animal aujourd'hui, c'est une des questions qui taraude aussi la société régulièrement. Donc c'est important pour vous, ça aussi, j'imagine.
C'est essentiel. C'est un volet de la RSE qui est aujourd'hui incontournable. On a une équipe de 5 personnes juste aux achats produits qui ne travaillent que sur le sujet. Bien sûr que le bien-être animal est dans toutes les têtes, et on voit des choses qui nous plaisent pas, bien évidemment, et on travaille avec les éleveurs également pour l'améliorer. Maintenant, on peut pas tout faire, et je rejoins Hubert. À un moment donné, on leur a demandé de produire. Quand vous parliez tout à l'heure de l'éleveur du cochon de Bigorre et du boucher qui lui achète, il en achète combien? Il n'en achète pas 2800 par semaine.
C'est un fait.
Voilà. Donc, mais combien de consommateurs achètent chez ce boucher-là et combien l'achètent chez nous? Donc, voilà. Je dis pas que l'un est bien, l'autre est pas bien. Je dis juste.
Non, vous dites c'est complémentaire.
C'est complémentaire, ça. Exactement. Il en faut pour tout le monde. Et aujourd'hui, il faut travailler le bien-être animal à tous les niveaux, mais toujours, toujours en pensant au bien-être de l'éleveur. Vous pouvez pas tout changer du jour au lendemain, alors que ça fait des décennies qu'on leur demande de travailler comme ça, en claquant des doigts. Il faut le faire intelligemment, en construction, avec le monde agricole. Mais il faut aller sur le bien-être animal à fond, quoi.
Dernière question, Michel Biérot. Les prix des céréales flambent en ce moment, comme beaucoup de matières premières. Est-ce que ça vous inquiète, justement? Est-ce que vous ne craignez pas que dans les mois qui viennent, il faille réajuster les prix, justement?
C'est fait depuis janvier, depuis décembre. Sinon, on n'aurait plus de produits. La volaille a explosé. Parfois, on a jusqu'à 50% du coût de la volaille qui provient de l'aliment. L'aliment a explosé. Il a pris 25%. Donc on a mis déjà beaucoup d'argent sur la table en janvier. On a remis de l'argent en mars. Et on en remettra. Parce qu'à un moment donné, il faut soutenir le monde agricole. Et c'est pour ça que je suis en relation avec Envol, l'interprofession de la volaille, et avec toutes les interprofessions. Et quand il faut... en septembre l'année dernière, le bovin était dans une crise assez importante. On a mis 50 centimes sur le haché, surgelé, 60 centimes sur le frais. On met de l'argent en permanence sur la table parce qu'il faut qu'on... Et surtout, il nous faut les volumes. Derrière, il y a des demandes du consommateur. Donc, une fois, quand il n'y avait plus de beurre dans les rayons, c'est tout simplement parce que l'enseigne ne payait pas. Mais quand il y a des augmentations fortes et qui sont démontrées par le monde agricole... Pourquoi on passerait à côté? Il faut les payer, c'est tout, quoi.
On est dans un moment où la reprise s'annonce avec la fin du confinement, annoncée donc pour le 19 mai, puis pour le 9 juin prochain. Comment vous l'appréhendez, vous, en tant que patron de la grande distribution? Est-ce que vous pensez qu'on va vers... un moment où les Français qui ont beaucoup économisé, hein, on est sur 120 milliards déjà économisés à l'heure qu'il est, vont beaucoup dépenser à nouveau? Ou bien est-ce que vous craignez qu'on ait une crise économique et sociale qui s'ensuive?
Alors nous, au niveau de la distribution alimentaire, on a plutôt peiné au premier confinement de mars à mai 2020. Mais depuis, il y a quelques modifications des habitudes de conso ou d'achat des consommateurs. Ils achètent moins souvent, mais avec des paniers plus importants. Mais aujourd'hui, enfin, on n'est pas à plaindre. Les distributeurs sont le moins à plaindre sur l'année 2020. Je pense que, oui, les Français vont vouloir se faire plaisir dès le 19 mai, mais plus sur du non-alimentaire, sur du textile. Enfin, il y a quand même tous les commerces aujourd'hui de proximité qui sont fermés, quoi. Et notamment le textile, les produits, tout simplement les produits de... les mobiliers de jardin, aujourd'hui, vous ne pouvez rien acheter. Mmh. Alors qu'il y a les premiers jours de printemps.
C'est pour ça que vous vendez des tondeuses.
Et, par exemple, oui. Ouais. Mais non, non, il va
y avoir. Il est très fort.
Il va y avoir des modifications, je pense, des habitudes de consommation. On l'a déjà remarqué. Mais en tout cas, voilà, la distribution alimentaire sur 2020 a fait une très belle année. Et c'est pas,
plus combien pour Lidl, vous avez déjà.
On a une très, très belle croissance sur 2020.
Un petit chiffre, non?
Une belle croissance.
Une belle croissance, bon, ben, d'accord. À deux chiffres?
Quasiment.
Quasiment à deux chiffres, quasiment, donc on est à 9 et quelques pourcents.
Voilà, par là. Et, voilà. Mais non, ce qu'il faut surtout dire, et ce que je veux surtout dire, c'est pas nous qu'il faut plaindre. Nous, on n'est pas à plaindre, même si c'était compliqué, il fallait réajuster les volumes, tout ça. Mmh. Mais ceux qui sont à plaindre, c'est tous les commerçants dans les centres-villes qui sont fermés et qui ont le rideau fermé depuis un an, quoi.
Merci beaucoup, Michel Biérot.
Merci à vous.
D'être venu dans Paysans Autrement pour nous raconter cette aventure avec les éleveurs, ces contrats tripartites, pour bien comprendre, évidemment, bah, comment les éleveurs sont rémunérés, comment ils arrivent à vivre un petit peu mieux, notamment grâce à ces contrats. Hubert, qui était avec nous, bien entendu, Hubert Simon, et puis Benjamin Denequin. Merci à vous deux d'avoir été à distance, ouais, en
merci,
visio.
Merci.
Et puis, on espère vous retrouver. Oui, un petit mot.
Je voulais placer un moment de la discussion, mais je n'ai pas trouvé l'occasion.
Oui, rapidement.
Une des difficultés qu'on a quand on parle des relations qu'on a avec la grande distribution, et Michel Biérot en l'occurrence, c'est quand on leur dit que c'est simple. Voilà. C'est compliqué d'expliquer que ça, c'est simple.
Oui, c'est vrai.
Donc,
bon,
allez,
c'est pas toujours simple de faire simple.
Quand c'est simple, c'est compliqué. Bon, allez, merci. Vous continuerez votre discussion entre vous, bien sûr, et puis on aura l'occasion de vous retrouver un de ces jours sur Radio Territoria pour Paysans Autrement, émission que vous pouvez écouter, réécouter à volonté, en podcast, bien sûr, sur Radio Territoria. À très bientôt.
Paysans Autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site.